parti pour un dimanche de campagne à 3 semaines tout juste du premier tour des législatives. Des élections qui sont loin d'être une simple formalité cette année. D'ailleurs, Emmanuel Macron a carrément déconseillé à certains membres du gouvernement d'y aller. Demain, premier conseil des ministres et première photo de famille avec celui qui a fait tant parler depuis vendredi.
Monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
On reviendra évidemment sur la nomination de Pape Ndiaye. On évoquera aussi le cas d'Amien Abad. La prise de guerre LR qui se transforme en boulet pour la majorité présidentielle. Premier gros couac avec des accusations de viol qu'il dément avec la plus grande force. Elisabeth Borne affirme qu'elle n'en savait rien. Elisabeth Borne, 24e locataire de Matignon depuis le début de la 5e République. Bonsoir Thomas Legrand.
Bonsoir Claire.
Ce soir au programme des Bobineaux, un petit quiz.
Et oui, devinez.
Ou bien on ferme les yeux. On considère qu'il n'y a pas de problème et on va jusqu'au bout de la nuit comme ça.
Bon, je suis sûr que vous avez trouvé, mais on attend pour la réponse.
Absolument, on attend, on fait ça plutôt dans la dernière partie de cette émission. Au sommaire également, la semaine politique de Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef. Et au like citoyen, bonsoir Alex Darmon.
Bonsoir Claire.
Youtubeur politique. Ce soir, la mobilisation de Reconquête pour les législatives, elle passe par les réseaux sociaux.
Oui, vous allez voir un outil spécialement créé sur le digital pour les candidats.
On s'arrêtera sur ces législatives d'une manière générale, entre accord et dissidence. Pour nous accompagner jusqu'à 19h, Soazic Kemener, bonsoir.
Bonsoir Claire.
Rédactrice en chef politique à Marianne. Et David Revaud-Dallon, bonsoir.
Bonsoir.
Chef du service politique du journal du dimanche, avec plusieurs grandes interviews à la une du JDD. Aujourd'hui, on va y revenir. À la réalisation ce soir, Lucie Lemarchand et à la technique, Laurent Baudouin.
Un dimanche de campagne. Claire Servagen sur France Inter.
Cela fait un peu plus de 48 heures que l'on connaît la composition du gouvernement d'Elisabeth Borne et voilà qu'une affaire éclate avant même le premier conseil des ministres. Elle concerne Damien Abad, nommé vendredi ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. Damien Abad qui jusqu'à cette semaine était encore président du groupe LR à l'Assemblée. Dans un long article mis en ligne hier soir, Mediapart révèle que l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, un organisme mis en place en février dernier par des femmes du collectif MeToo Politique, a eu connaissance des témoignages de deux femmes qui l'accusent de viol. Des faits vieux de plus de 10 ans, ils ont donné lieu à une plainte, classée sans suite. L'article de Marine Turki revient en détail sur ces accusations que Damien Abad réfute avec la plus grande force, il le dit dans un communiqué. Alors on ne va pas revenir sur le fond du dossier, ce n'est pas l'endroit, mais sur les conséquences politiques de tout cela, sachant que l'Observatoire a alerté par mail La République En Marche et LR il y a plusieurs jours déjà, sans que cela ne provoque beaucoup de réactions. Deux des destinataires à la REM disent même ne pas avoir lu leur mail. Rattrapée par ce dossier lors d'un déplacement dans le Calvados où elle est en campagne, Elisabeth Borne a expliqué devant les caméras de BFM TV qu'elle n'en savait rien.
Bien évidemment, je n'étais pas au courant. Je vais être très clair sur tous ces sujets de harcèlement, d'agression sexuelle. Il ne peut y avoir aucune impunité. Moi, j'ai découvert l'article de Mediapart hier. J'ai pas plus d'éléments que le fait que l'affaire a été classée sans suite. Je peux vous assurer que s'il y a des nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de cette décision.
Alors, encore une fois, on n'est pas là pour faire l'enquête. N'empêche, Soazic Kemener, c'est une affaire qui arrive à un moment très particulier. Premier conseil des ministres demain, ça arrive alors que la nouvelle première ministre est en campagne dans le Calvados. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une affaire comme celle-là?
Alors, il faut rester prudent, forcément. Sur le fond, une grande prudence, et effectivement, ce qu'on regarde d'un point de vue politique, on a un moment où un gouvernement a enfin éclos, après une très longue gestation, juste avant le premier conseil des ministres, vous l'avez dit, c'est demain, on est à 3 semaines des élections législatives, et on avait une prise de guerre, c'est-à-dire on a toujours, hein, puisqu'il est les ministres à ce jour, Damien Abad, ex-président du groupe LR à l'Assemblée, donc effectivement, c'est un très mauvais timing, alors qu'il y avait une première ministre, hein, la deuxième première ministre de notre 5e République. Je trouve que la réponse d'Elisabeth Borne est assez bonne. C'est-à-dire quand elle dit qu'il n'y aura aucune impunité, elle montre, je trouve qu'il y a un changement de ton d'ailleurs par rapport à ce qu'on a pu entendre dans la classe politique. Après, grande prudence, moi je ne sais rien de l'affaire, j'ai découvert l'article de Mediapart hier soir, mais c'est vrai que l'argument qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux notamment en disant La République En Marche était absolument au courant Ça, je pense que vu le timing, ça pose encore question. Et je pense que ce serait très bien de passer de cette affaire juste avant le premier Conseil des ministres.
David Revaud-Allonne.
C'est vrai que je ne retire pas un mot ce qui vient d'être dit. Ça arrive au plus mauvais moment, avant même 48 heures avant le premier Conseil des ministres. Et qui plus est, sur une des rares nouveautés en termes de casting de ce gouvernement, puisqu'il y a beaucoup de maintenus, de beaucoup de sortants qui ont été reconduits, notamment sur des gros ministères. Donc on a 3 ou 4 nouveaux entrants qu'on regardait avec plus d'attention que les autres et il en fait partie. Après, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté pour ce gouvernement, mais comme pour les autres, à gérer, à établir une véritable jurisprudence politique fonctionnelle, c'est-à-dire que on avait jusqu'ici la condamnation, puis parfois la mise en examen. Mais quand il y a des accusations de ce type avec des affaires classées ou des affaires qui ne prospèrent pas sur le plan judiciaire, je pense à des ministres du quinquennat précédent, Gérald Darmanin ou Nicolas Hulot, c'est compliqué pour le Premier ministre ou pour le Président de décider en fonction. Il est évident que qu'en politique comme ailleurs, on ne peut pas, sur la simple foi d'une accusation, décider de mettre fin à une carrière. Après, le problème, c'est que la Macronie est tombée dans l'excès inverse. Elle n'a absolument pas pris en compte la dimension politique de ses affaires. Et donc, Gérald Darmanin, il a beau être totalement innocent sur le plan judiciaire, mais il est quand même toujours un petit peu suivi par ses affaires. Et on imagine que Damien Abad, s'il est maintenu au gouvernement, ce sera exactement le même film politique.
Alors, pour sortir juste du gouvernement, David Revaud-Allonne, vous le disiez, La République En Marche a une attitude, par exemple, pour les législatives particulières. On a vu ce qui s'est passé la semaine dernière avec Jérôme Perra. Il a quand même fallu un certain temps pour se rendre à l'évidence que ça posait problème.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un combo quand même assez gênant, ce qui arrive sur un contexte déjà assez, un petit peu lourd, hein, je l'évoquais depuis 5 ans, et puis là, en une semaine, on a un véritable pas en avant, si vous voulez, sur la fin du sexisme en politique avec, vous le disiez, la deuxième première ministre de la 5e République et même de la République tout court, puisque...
On n'avait pas eu avant,
évidemment. Et patatras, on a cette affaire Perra avec le patron du parti hein, qui rentre au gouvernement, Stanislas Guérini, qui est quand même... une ligne de défense totalement, qui me semble totalement délirante, en utilisant même le terme d'honnête homme. Les honnêtes hommes, c'était les gens instruits au XVIIe, au XVIIIe siècle, on va dire. Et il a tout faux et il gobe même, je trouve, l'impact positif de la nomination de Madame Borne. Donc attention, vigilance absolue. Je pense que Emmanuel Macron n'a pas fait attention à ses affaires pendant 5 ans et là, il a plus le droit à l'erreur. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec vous, Madame Borne a très bien répondu. J'espère que c'est le début d'une nouvelle ère de ce point de vue-là.
Thomas Legrand.
C'est politiquement, journalistiquement, incommentable le fond de l'affaire. Vous avez bien fait de dire qu'on va pas commenter le fond. On n'est pas là pour ça. Journalistiquement, sur le fond, il y a que des enquêtes à faire, voilà. Mais dans toutes ces affaires, on est dans une période de changement anthropologique. La société française, la société occidentale d'ailleurs dans son ensemble, le changement anthropologique. Et donc tout ce qui est les politiques doivent-ils se ranger au rythme de la justice, c'est-à-dire les mises en examen, ou alors les condamnations passées, ou simplement les mises en cause, ou alors est-ce qu'un faisceau de présomption quand plusieurs femmes disent que tel ou tel personnage a non seulement il y a ce terme comportement lourdingue, mais qui va au-delà de la décence ou du respect. Le politique, pour l'instant, il est décalé. Il est décalé avec ce qui se passe dans la société et cette évolution chez les plus jeunes du rapport entre les hommes et les femmes, du rapport de domination qui, heureusement, s'éteint, on prend conscience. C'est un truc anthropologique et on est au milieu de tout ça. Et voilà, donc il faut. Après, c'est vu avec la grande focale, la petite focale. On peut se dire, tiens, ça sort maintenant. LR n'était pas au courant. LR n'était pas au courant qu'il y avait un problème. S'il y a un problème, j'en sais rien. Il y a peut-être pas de problème. Mais s'il y a un problème, LR n'était pas au courant. Chaque parti essaye de faire comme il peut. On a vu que la NUP avait pris les devants. On a vu parce que les écologistes ont déjà vécu ça il y a quelques années. Chaque parti essaye de faire comme il peut. Chaque parti, il y a des gens dans les partis qui utilisent aussi des réputations ou des débuts d'information pour plomber les uns, plomber les autres. Surtout au moment où on change de camp. Quand on change de camp, évidemment. Toutes les boîtes de Pandore s'ouvrent. C'est à regarder avec beaucoup de prudence et pour un commentateur politique, c'est beaucoup de tristesse aussi.
Alex Garmont.
Oui, justement, bah, les commentateurs politiques, il y en a beaucoup, en tout cas des amateurs sur les réseaux
sociaux.
Tout le
monde est commentateur politique, voilà. C'est ça la démocratie.
Et exactement. Et en tout cas, ce qui est intéressant sur les réseaux sociaux, c'est que la question qu'on pose, qui revient en permanence, c'est quel est cet observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique, d'où il vient, de quoi on parle, parce que c'est vrai qu'on ne le connaît pas forcément. Et donc, on peut lire la description de l'explication de cet observatoire dans leur description Twitter. Ils disent qu'ils ont été créés à l'origine du mouvement qui avait aussi émergé sur Twitter, hashtag MeToo. C'est 300 féministes qui ont créé cet observatoire. 5 notamment ressortent. On n'a pas exactement les noms, mais on sait qu'il y a Alice Coffin, Fiona Texer et Mathilde Viau. Pour le reste, on n'en sait pas plus. Il n'existe pas même juridiquement, je ne crois pas, de rapport avec une haute autorité de la transparence de la vie publique et politique. Donc, aujourd'hui, c'est simplement des signalements qui ont été donnés, mais qui n'ont pas de valeur, je crois en tout cas, hein, juridique. Voilà.
Mais c'est vrai que la société civile fait aussi avancer les choses dans ce domaine et qu'on est obligé d'en tenir compte. David Revelano.
Mais juste oui là-dessus, d'ailleurs, les politiques ont souvent, ces affaires en politique ont souvent valeur d'exemple ou de symbole. Regardez l'affaire, la première grosse affaire qui explose en France et qui va bouleverser finalement nos pratiques aussi, c'est l'affaire Strauss-Kahn. Et avant, on ne parlait pas de ces éléments-là. Pourquoi ? Parce qu'on se disait, et de bonne foi, hein, en tout cas, je pense pour tous ceux qui sont autour de cette table, que ça n'avait rien à voir avec la politique, que c'était de la vie privée, etc. Sauf que, évidemment, quand ça prend une dimension à minima de manque de respect, de violation de la bienséance, des règles de travail, etc., et à maxima sur le plan pénal, évidemment, ça vient et ça ne peut qu'être pris en compte dans l'analyse et le commentaire politique.
Alors on va refermer ce chapitre pour l'instant, parce que jusqu'à ce que Damien Abad fasse la une de l'actualité, c'est Pat Ndiaye qui concentrait les critiques, mais là, pour des raisons politique. La nomination au ministère de l'Éducation nationale de cet historien spécialiste des États-Unis, mais aussi de la minorité noire ici en France, a provoqué la fureur de l'extrême droite, à commencer par celle de Marine Le Pen sur BFM.
Ce choix de mettre un homme qui défend l'indigénisme, le racialisme, le wokisme à la tête de l'Éducation nationale, c'est un choix terrifiant pour les parents et les grands-parents que nous sommes. Et il n'est pas question que nous ne combattions pas cette politique de déconstruction de la France. En fait, Emmanuel Macron, c'est le déconstructeur d'en haut et Jean-Luc Mélenchon, le déconstructeur d'en bas.
Critique à l'extrême droite, mais pas seulement. Le député MoDem Jean-Louis Bourlange a fait part de ses doutes sur certains points. Il l'a fait chez nos confrères de France Info.
C'est une personnalité remarquable, extrêmement respectée, un très grand intellectuel, mais nous passons quand même d'un système à l'autre sans crier gare. Ça nous interpelle. Monsieur Blanquer s'est vraiment signalé par un combat contre le wokisme et on va voir si tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a lu de M. Pabendaï montre qu'il écoute une autre musique, un autre discours. Je crois qu'il y aura un exercice de clarification qui devra être mené dans les semaines qui viennent.
La première ministre Elisabeth Borne apporte son soutien au successeur de Jean-Michel Blanquer. C'était vendredi soir sur TF1.
Pap Ndiaye, il est là parce qu'il partage, je pense, avec Jean-Michel Blanquer, l'objectif d'offrir à nos enfants l'excellence et l'égalité des chances. Et je pense qu'il incarne ça. Pap Ndiaye, c'est un républicain très engagé, enfin quelqu'un qui croit aux valeurs de la République, et c'est bien évidemment ce qu'il va porter en tant que ministre de l'Éducation nationale.
Quant à Jean-Luc Mélenchon, qui soupçonne le chef de l'État d'avoir voulu faire un coup politique avec cette nomination, voilà ce qu'il a dit sur LCI.
Si c'est un coup tactique, je le trouve pauvre. Ça me fait penser au discours de Marseille, où il avait dit « Nos vies valent mieux que leurs profits », en reprenant une formule du NPA. Bon, je ne crois pas que ça ait fait changer d'avis une seule personne du NPA. Donc si c'est un coup, à mon avis, c'est raté.
Voilà, en tout cas, beaucoup, beaucoup de commentaires sur l'arrivée de Pap Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale. Thomas Legrand, pourquoi ?
Parce que ces derniers temps, ces dernières années, il y a eu un faux débat, un débat, de mon point de vue, complètement débile, qui s'est installé dans la société, qui opposerait les universalistes classiques, républicains, à aux wokistes, différentialistes, racialistes ou décoloniaux. En fait, c'est pas ça du tout. Il y a quelques extrêmes de chaque côté qu'on voit beaucoup sur des chaînes polarisées qui préfèrent mettre des extrêmes les uns en face des autres pour polariser le débat, pour faire du show. Mais la vérité du débat, c'est que Pap Ndiaye, il suffit de lire ce qu'il écrit et d'écouter ce qu'il dit. C'est un universaliste. C'est un universaliste qui en plus est un grand universitaire qui considère que pour que l'universalisme soit réel, il faut, il faut lutter contre le racisme. Quand la République dit que les races n'existent pas, elle ne dit pas pour autant que le racisme n'existe pas. Donc l'universalisme, pour qu'il soit accompli, il faut que le racisme disparaisse, que les discriminations soient combattues, que les minorités, parce qu'il y en existe, et c'est pas du communautarisme que dire qu'il existe des minorités qui sont ostracisées, qui ont du mal à trouver un logement ou du travail. Pourquoi ? Lui, il a étudié tout ça aux États-Unis et en France. Il ne nie pas non plus le passé colonial, le passé esclavagiste de la France, qu'il faut reconnaître mieux, qu'il faut un peu plus décrire. Et
il arrive dans un ministère où celui qui le précédait était justement dans les accusations dont vous venez de parler.
Il était un petit peu dans la caricature dont on vient de parler. Alors, c'est un peu étonnant que Emmanuel Macron et Jean-Louis Bourlange, c'est pas idiot ce qu'il dit, c'est un peu étonnant qu'on passe de l'un à l'autre, comme si Emmanuel Macron, mais enfin, quand vous avez essayé de définir le macronisme pendant des années,
on peut comprendre,
je suis pas le seul. Moi je trouve ça une très belle idée, et c'est un vrai universaliste.
Est-ce qu'on peut savoir, est-ce que quelqu'un sait pourquoi qui est allé chercher Pape Ndiaye et pour quelle raison?
Emmanuel David Macron Revol, évidemment Dallon. Vous savez que il avait été Pape Ndiaye lui avait tapé dans l'œil, parce qu'effectivement il a un parcours universitaire brillant, une vraie pensée. Il l'avait installé, souvenez-vous, au musée de l'histoire de l'immigration de la Porte Dorée, qui était déjà un symbole assez fort. Et évidemment avec lui, je suis d'accord avec l'analyse de Jean-Louis Bourlange, il passe non pas du coq à l'âne, mais d'un extrême à l'autre, si j'ose dire, sur ces questions que vous évoquez. Pourquoi ? Parce que Jean-Michel Blanquer, il était sur la ligne laïcarde dure, hein, c'était une défense intransigeante dite républicaine, c'est la ligne du printemps républicain, c'est ce courant idéologique qui est proche de Manuel Valls et qui campe sur ses positions, très dur dans sa dénonciation de l'islamisme et même de tout ce qui pourrait y ressembler. Et puis de l'autre côté, on a Pape Ndiaye qui, ça vient d'être dit très bien par Thomas Legrand, et c'est l'exact inverse sur le plan idéologique. Donc ça renseigne.
Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal on proférait des accusations, personne ne les a arrêtées au sommet de l'État. On n'a jamais entendu la moindre nuance.
Mais là, on en revient effectivement à l'essence même du macronisme et cette forme de plasticité permanente qui montre que, on peut nommer quelqu'un à la même place, d'un quinquennat à l'autre, qui est sur des positions... Non, quand même, il faut le dire, ils sont sur des positions radicalement différentes.
C'est pas un wokiste.
Non, voilà. Je suis d'accord. Moi, je pense qu'évidemment, le procès politique qui lui a été fait par l'extrême droite est une fois de plus caricatural, mais très clairement, il faut le dire, c'est la ligne opposée à celle de Jean-Michel Blanquer. Et je pense que Emmanuel Macron, d'abord, on a vu la cote de Blanquer qui était très en cours, hein, au début du premier quinquennat, très proche de Brigitte Macron, bien vu par le personnel et les syndicats enseignants, je termine très rapidement, qui a vu sa cote se désagréger petit à petit. Et puis donc, il y a aussi un dernier aspect dans la nomination de Pape Ndiaye, c'est que c'est un universitaire reconnu, c'est un enseignant, ce que n'était pas Jean-Michel Blanquer, qui était un haut fonctionnaire, un technicien de l'administration de l'éducation nationale. Pardon, je m'arrête.
Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a la symbolique et puis il y a les faits. Alors effectivement, dans la symbolique, il y a cette idée d'antithèse, évidemment pour plaire aux syndicats enseignants. Pourquoi ? Parce qu'on est juste avant les législatives. Et en fait, la réaction que voulait Emmanuel Macron, c'est exactement la réaction symétrique à celle de la nomination de Jean-Michel Blanquer. Souvenez-vous, 2017, nomination de Jean-Michel Blanquer, réaction de François Baroin. François Baroin, c'est la tête de file à l'époque pour les législatives, pour les LR qui voient de la grosse opposition.
Ils
étaient ensemble, quand ils avaient 8 ans, ils étaient ensemble à l'école. C'est de loin le meilleur, un missionnaire de la transmission du savoir. Et là, il a obtenu une réaction symétrique, celle de Jean-Luc Mélenchon, qui, comme par hasard, est l'adversaire numéro 1 pour les législatives de 2022. Donc, qu'est-ce qu'il obtient comme réaction de Jean-Luc Mélenchon ? La première, c'est la nomination d'un grand intellectuel. À tel point qu'il a été obligé de se reprendre aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, en disant « il est de droite parce qu'il est dans un gouvernement de droite ». Ça servait à ça. C'était aussi pour obtenir cette réaction-là. Alors après, il y a les faits, effectivement, et on voit bien que c'est quelqu'un qui est beaucoup moins caricatural ce qu'on a entendu, notamment, vous le disiez tout à l'heure, David, de la part de l'extrême droite. Je parle de Pape Ndiaye, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a dit, par exemple, « je n'approuve pas les discours moralisateurs ou sectaires de certains d'entre eux », il parlait des woke, c'est un adepte du consensus. Depuis 2021, il est au musée de l'histoire de l'immigration. On n'a pas entendu qu'il se passe, que le musée soit à feu et à sang, au contraire. Donc voilà, attendons de voir. Moi, je note que sa première réaction, ses premiers mots, c'est en hommage à Samuel Paty. Et je pense que quand un homme, un universitaire, un historien, devient politique, c'est ce qui est en train de se passer, bah, il faut regarder la transformation.
Alex Darmon.
Oui, non, mais tout ce qui est dit, moi, je m'inscris complètement dans tout ce qui est dit, mais moi, je regarde toujours sur les réseaux sociaux ce qu'il en est, ce qui se passe. Ce qui est intéressant sur ces réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'ils n'existent pas, Papendiaï. C'est que depuis là, deux jours, on commence à créer. D'ailleurs, c'est tout. Rappelez-vous de cette phrase d'Emmanuel Macron à l'époque, il disait soyez fiers d'être des amateurs. Bah là, les nouveaux entrants sont amateurs complets sur le digital. On a l'impression qu'il y a une prime à ceux qui ont travaillé, qui n'avaient pas de réseaux sociaux, qui sont restés, et ceux qui se sont beaucoup plus intéressés à leur image, Djebari, Marlène Schiappa ou d'autres, sont sortis. Et aujourd'hui, vous avez ces gens-là qui arrivent, qui sont inexistants sur les réseaux sociaux, mais vraiment inexistants. Papendiaï, on lui a créé un compte Instagram, je pense qu'il ne sait même pas comment
c'est intéressant, ça.
Voilà. Oui. Il y a deux jours, on lui a créé un compte Instagram, il n'a toujours pas de compte Twitter, là où la nouvelle ministre de la Culture vient de se créer elle-même un compte Twitter il y a deux jours, pareil au mois de mai, pareil pour Madame Retailleau à l'enseignement supérieur. Ce sont des gens qui n'existaient pas numériquement et digitalement parlant il y a encore quelques jours.
Merci d'avoir fait la transition avec le reste du gouvernement, parce qu'il faut qu'on avance quand même sur ce nouveau gouvernement qui vient tout juste d'être constitué, bâti pour aller aux législatives, et puis on verra bien, il y aura des ajustements après en fonction des résultats, parce que cette fois-ci c'est clair, net et précis, ceux qui seront battus rentreront à la maison, fallait quand même le préciser, mais on avait cru comprendre, David Revaud-Allonne, que Emmanuel Macron avait peut-être peur que certains soient battus et leur a demandé de ne pas aller aux législatives.
Oui, effectivement, il y a eu quand même une grande prudence de la part de certains, vous avez remarqué d'ailleurs que certaines circonscriptions ont été quand même fléchées, comme on dit, c'est-à-dire réservées, je pense notamment à celle de Madame Borne dans la sixième circonscription du Calvados, qui est un terrain presque gagné d'avance, même si bien sûr rien n'est jamais acquis. Mais effectivement, aujourd'hui...
Éric Dupond-Moretti priait de ne pas y aller.
Voilà, Dupond-Moretti qui avait été dépêché, il faut le rappeler, sur le front des régionales dans les Hauts-de-France, et qui avait été une véritable catastrophe électorale, même s'il était très engagé sur le combat contre Marine Le Pen. On a vu que ça n'avait pas du tout fonctionné. Donc je pense qu'il est un peu échaudé, Emmanuel Macron, et par contre il ne peut pas s'extraire de cette règle, cette jurisprudence politique qui veut que quand un ministre perd sur sa circonscription, il est forcément délégitimé et doit quitter le gouvernement.
Alors, on se souvient qu'en 2017, il y avait des ministres, candidats, ils avaient tous gagné les législatives, donc il n'y avait pas eu ce problème. Parce que, souvenez-vous, 2007, Nicolas Sarkozy nomme Alain Juppé super ministre de l'Environnement, et puis il perd dans sa circonscription, et c'est fini, mais il revient au ministère des Affaires étrangères quelques années plus tard. Donc, il peut y avoir des accidents de ce type-là à la fin du mois de juin, en sachant qu'on n'est plus du tout dans la même perspective électorale. Là, on voit que les législatives vont se jouer vraiment. Personne n'est en train de dire que tout est automatique. Il y aura une majorité sans doute pour le président de la République. On va voir, les Français vont voter, mais ça va être beaucoup plus disputé dans des circonscriptions. Il va y avoir des dissidences dans tous les sens. Donc, c'est assez illisible quand même ce premier tour et ce second tour des législatives. Donc, il est possible que des ministres disparaissent d'ici trois semaines.
Thomas Legrand, vous vouliez ajouter un mot là-dessus? Non, pas forcément.
Pas forcément.
Sinon, je vais en arriver à Elisabeth Borne, qui s'exprime longuement dans les colonnes du journal du dimanche. C'est vous, notamment, David Revaud-Allonne, qui l'avait interrogé. Sur les retraites, elle est claire, hein, la réforme se fera.
La réforme se fera, même si sur la question des 65 ans, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit qu'il n'y a pas de totem. Mmh. Voilà.
C'est le mot consacré quand on...
Absolument, quand on veut lâcher un peu de lest. C'est la position qu'avait édictée le président Macron en fin de campagne. Enfin, dans l'entre-deux-tours, puisqu'il fallait faire des appels à la gauche à ce moment-là, puisque c'est là qu'était le stock d'électeurs, et donc il l'avait plus ou moins laissé entendre. En revanche, on voit qu'elle est totalement déterminée, et qu'elle fustige absolument tous ceux qui, comme Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, préconisent toujours de baisser l'âge de la retraite, notamment à 60 ans. Elle dit que c'est un mensonge, et qu'elle, c'est le titre que nous avons choisi de mettre à la une, elle ne mentira pas aux Français.
Et elle répète pendant l'interview plusieurs fois que tout sera négocié, oui. Tout sera fait de façon horizontale.
Négociation, concertation.
Voilà, négociation. On reste à voir, parce qu'on sait que c'est une négociatrice très, très dure.
Absolument, et on a d'ailleurs, juste après l'interview, placé une petite enquête d'Emmanuel Souffi qui raconte 2 ans de relation avec les syndicats quand elle était ministre du Travail, et effectivement, si ça s'est très bien passé et qu'elle a fait preuve de souplesse sur la crise sanitaire et l'adaptation notamment aux entreprises, eh bien, c'était beaucoup plus dur sur l'assurance chômage, et là, pour le coup, il y a même un syndicaliste qui nous explique qu'elle était très, sans jeu de mots, bornée, donc ça va être assez vif, je pense, dans les prochains échanges, sur la réforme des retraites.
Mais on sait que pendant la crise sanitaire, elle s'est opposée au ministre de la Santé de l'époque, puisqu'il ne l'est plus aujourd'hui, Olivier Véran, notamment sur le pass sanitaire en entreprise. Et elle avait remporté ce combat-là, elle était très fière, d'ailleurs elle le disait en privé, elle était très fière d'avoir remporté ce combat sur Olivier Véran. Maintenant, la question, c'est comment vont se passer les relations avec l'Élysée, et est-ce qu'elle aura un peu de marge de manœuvre, hein. Pour l'instant, c'est pas vraiment ce qui se dessine. Alors, ce qui est intéressant...
J'allais même vous demander si elle avait eu une marge de manœuvre pour la composition du gouvernement, ou est-ce que vraiment c'est Emmanuel Macron qui a tout décidé? donnés?
Alors, il y a quelques noms qui ont été donnés, comme la ministre des Sports, qui aurait été soutenue par Elisabeth Borne, mais on fait même pas semblant à Matignon, hein. C'est un gouvernement choisi par Emmanuel Macron, pour Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, c'est un gouvernement qui se lie en fonction des peurs électorales d'Emmanuel Macron. Si vous regardez bien, on débauche un LR, on en a parlé tout à l'heure. On prend quelqu'un à l'éducation nationale qui va peut-être très bien faire son travail, mais qui dans un premier temps va embêter Jean-Luc Mélenchon. Et puis sinon, on prend des fidèles, des gens qui ont géré dans la crise, comme Bruno Le Maire, par exemple, à l'économie. Il y aura pas de surprise, en tout cas, pas de mauvaise surprise d'ici trois semaines.
C'est très juste. Tout petit bémol, Madame Borne a quand même insisté et obtenu certains arbitrages ministériels, et notamment autour d'elle, les deux ministres qui sont chargés de la transition écologique, qui sont des proches, ainsi que, alors il faut les citer, Amélie de Montchalin.
Mais elles sont aimées de l'Élysée aussi.
Il faut dire qu'il y avait eu des refus dans ces ministères, notamment des écologistes qui ont refusé.
C'est vrai, mais la première ministre s'est quand même flanquée de ces deux ministres-là, c'est-à-dire Madame Montchalin et Madame Pannier-Runacher, ainsi que la porte-parole, Olivier Grégoire, qui est assez proche, et donc on peut postuler qu'il y aura une petite phalange borniste, entre guillemets, au sein de ce gouvernement très macroniste.
Alors, on va parler des législatives dans quelques
minutes.
Qu'est-ce
que le bornisme,
Oula, non.
Vous avez 4 heures.
Ou 5 ans.
Ça devient très compliqué, votre affaire. Là.
Un dimanche de campagne sur France Inter.
Allez, retour maintenant sur l'actualité politique des derniers jours. Bonsoir Cyril Lacarrière.
Bonsoir Claire.
Place à votre semaine politique.
Le vent souffle sur cette campagne et cette semaine, il nous a fait entendre des applaudissements et un murmure de soutien.
Bon courage. Mon numéro ne change pas.
Mon numéro ne change pas. Elisabeth Borne sait donc où joindre Jean Castex en cas de coup de mou. Et si on ne sait pas si la nouvelle première ministre est d'une nature tenace, une chose est sûre, elle a intérêt à avoir le cuir épais. Adrien Quatennens lui a tout de suite adressé un petit mot doux pour fêter son arrivée à Matignon.
Donc, Elisabeth Borne, c'est l'autre nom de la maltraitance sociale et de l'irresponsabilité écologique qu'incarne Emmanuel Macron.
Et si dans la majorité on dresse des louanges à la nouvelle première ministre, il y a aussi un peu de prudence. Écoutez ce que dit Jean-Pierre Raffarin. L'ancien premier ministre est un soutien d'Emmanuel Macron. Il aime beaucoup Elisabeth Borne, mais attention.
Elle a quand même des qualités assez exceptionnelles, hein, franchement. Elle est au niveau de la fonction. Enfin, la question, ça va être de ne pas se laisser enfermer dans la technocratie. Parce que notre problème est politique.
Le vent souffle sur cette campagne et cette semaine, il nous a rappelé que même si on avait enfin une première ministre, il y en a un qui espère vite la remplacer. Jean-Luc Mélenchon, premier ministre, s'est écrit sur les affiches de campagne. Sauf que même au sein de la NUP, certains sont dubitatifs au sujet de cette formule et Fabien Roussel ne se prive pas de le dire.
Je n'aime pas la formule « élire un premier ministre » parce qu'on n'élit pas un premier ministre.
Ben voilà. Au sein de la Macronie, on préfère ironiser plutôt sur les ambitions de Jean-Luc Mélenchon. Mardi, Christophe Castaner faisait remarquer que les Français avaient peut-être envie de tourner la page.
Vous avez des femmes et des hommes politiques comme Jean-Luc Mélenchon qui ont quoi, 40 ans, 50 ans de vie politique derrière eux. Je suis pas sûr que les Français soient nostalgiques et une passion particulière pour ceux qui sont en responsabilité depuis 40 ou 50 ans.
Pendant ce temps-là, lui, Jean-Luc Mélenchon ne perd pas de vue son objectif. Le patron de la France Insoumise a profité de la présentation du programme de la NUP pour rappeler ses priorités.
Il y a mieux à faire, hein, que de discuter les 6000 règlements intérieurs des piscines de ce pays. En tout cas, moi, je ne suis pas candidat à être Premier ministre des piscines.
Ah, la piscine. L'autre sujet brûlant de cette semaine politico-nautique. À Grenoble, vous le savez désormais, vous pouvez aller désormais à la piscine, seins nus ou en burkini. Un débat qui a remis de l'essence dans la machine Marine Le Pen. Qui dit burkini, dit nouvel argument de campagne.
Eh bien moi, des députés burkini, une coalition burkini, je n'en veux pas et je dis aux Français qu'il ne faut surtout pas qu'ils envoient ça à l'Assemblée nationale.
En l'espace de quelques jours, le burkini est donc devenu un fait de campagne pour ces législatives, ce qui a beaucoup agacé Laurence Rossignol, la vice-présidente socialiste du Sénat, a sèchement taclé Éric Piolle, le maire de Grenoble.
Quel crétin ! Sur le timing, je suis sidérée, ça pollue la campagne incontestablement, et puis sur le fond, il a tort. Il a tort.
Voilà, et tant pis pour celles et ceux qui espéraient une campagne législative apaisée. Pour Jean-François Copé, c'est même exactement l'inverse que cherchent les défenseurs du burkini à la piscine.
En réalité, derrière tout ça, c'est ouvrir une nouvelle fois un débat qui forcément va créer des tensions extrêmement violentes et qui, par ailleurs, fait comme si la question de la liberté des femmes n'existait pas.
Toujours sur le thème de la politique loin des affaires et des turpitudes de la nature humaine, j'aurais aussi pu vous parler cette semaine de Jérôme Perra, le candidat à l'REM condamné pour violence conjugale, de Michel Fanget, candidat Modem condamné à une peine qui le rend non éligible. J'aurais aussi pu vous parler des candidats RN qui brandissent une photo de leur femme noire pour assurer qu'ils ne sont pas racistes, ou de ceux qui ne préparent pas leur passage dans une émission de télé. Mais j'ai préféré terminer cette semaine politique par un message de douceur et d'apaisement, celui de Robert Ménard. Oui, de Robert Ménard, le maire Béziers, proche du RN.
Aujourd'hui, les Français, ils ont besoin d'être câlinés, choyés, écoutés, entendus. Qui fait ça? Qui fait ça? Qui fait juste ça?
L'occasion pour moi de vous citer Jossmann. Ça fait longtemps que j'ai pas fait la danse de la joie. Au milieu de l'océan, la pression m'a brisé les nageoires. Désolé si je suis froid, désolé si je suis méfiant. Je sais que t'aimerais tout savoir. En vrai, je suis pas si méchant. C'est juste, je me suis fait trop avoir. Et dans la vie, on ne contrôle rien. Au fond, tout est aléatoire.
Et vive les câlins.
Les câlins, absolument.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. Vous êtes toujours à l'écoute d'un dimanche de campagne sur France Inter avec autour de la table ce soir David Revaud-Dallon du JDD, Soazic Kemener, de Marianne, Alex Darmon, youtubeur politique et Thomas Legrand. On va passer aux législatives, le temps passe très vite. C'est dans 3 semaines, le premier tour. Les candidatures ont été déposées, c'était la dernière limite, vendredi à 18h. On ne sait pas encore exactement combien il y aura de candidats. Peut-être qu'avec l'accord à gauche, il y en aura moins que la dernière fois, c'est pas sûr. Il y a beaucoup de dissidence encore, Soazic Kemener?
Oui, il y a énormément de dissidents. On en pense à peu près une cinquantaine, je crois, de dissidents PS. On n'a pas encore toutes les listes, enfin ex-PS. Donc ça va compter, effectivement, parce que quand on a très peu de participation. Pour mémoire, c'était 57% au second tour en 2017. Au premier tour, c'était 52,4% de mémoire. Eh bien, il faut... tout bouge avec 200 voix. C'est-à-dire que j'ai regardé, par exemple, pour vous donner une idée, Jean-Luc Mélenchon, souvenez-vous, dans les Bouches-du-Rhône la dernière fois, premier tour, il a remporté ensuite l'élection, c'était, il avait remporté 8400 voix de mémoire. Donc ça va vraiment se jouer sur des toutes petites choses. Donc vous avez un dissident qui est bien mobilisé, qui mobilise ses militants dans la campagne, et bien ça peut changer le cours d'une élection quand on est vraiment sur des participations si petites.
Dissidence à gauche, vous avez posé la question à Carole Delga dans les colonnes du GDD, elle n'aime pas beaucoup le mot.
Non, parce qu'elle considère que ces dissidents sont légitimes, au contraire, et que les dissidents c'est plutôt ceux qui ont rejoint Jean-Luc Mélenchon et la NUPES. Mais évidemment, Carole Delga, alors elle ne l'annonce pas, mais elle est en train de tenter de prendre la tête d'un PS maintenu, entre guillemets, face à ceux qui iraient céder aux sirènes du mélenchonisme. Je rappelle qu'il n'y a absolument aucune dimension idéologique dans ce choix, puisque rien ne s'est par Madame Delga, présidente de la région Occitanie, Parti Socialiste, et Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, sont absolument sur la même ligne, mais simplement ils ont une stratégie absolument différente, une vision stratégique différente, et évidemment Olivier Faure, premier secrétaire du parti, il joue aussi non seulement son siège à l'Assemblée, mais son poste du même coup. Donc s'il n'est plus premier secrétaire, on peut faire la même réflexion que sur les ministres tout à l'heure. Pardon, s'il n'est plus député, il y a des chances qu'il soit décrédibilisé dans sa position de premier secrétaire. Donc oui, 50 à 70 dissidents, mais je postule quand même qu'à l'arrivée, puisque la NUPES a fusionné 4 formations politiques, je pense qu'il y aura moins de candidats de gauche que la dernière fois. Il faudra regarder ça dans le détail.
La NUPES, je ne sais pas comment vous dites ça, NUPES, 650... mesures qui ont été présentées, le programme commun de la gauche. Vous avez regardé, Thomas?
Oui.
Ça fait beaucoup quand même, 650.
Oui, ça fait beaucoup. Alors,
vous retenez quoi, vous?
La retraite, on retient que c'est pas très...
On retient surtout que les désaccords sont inscrits.
Oui,
aussi.
Les désaccords sont inscrits.
C'est pas banal.
C'est pas banal. Et Jean-Luc Mélenchon dit il y a 5% simplement de nuances. Il appelle pas ça des désaccords, il dit des nuances. Mais bon, c'est vrai que c'est sur des thèmes un peu structurants. Ça ressemble beaucoup au programme quand même des insoumis, c'est normal, parce que dans le rapport de force, c'est eux qui sont les plus puissants. Et ça ressemble beaucoup, pour que les écologistes et les socialistes aient accepté ça, ça ressemble beaucoup à un programme d'opposants. C'est-à-dire que on peut le comprendre, et beaucoup de socialistes le disent en privé, si on avait une bonne chance de gagner, et donc de devoir gouverner, on n'aurait pas signé ce genre de papier, on aurait négocié plus avant. Vous savez, c'est compliqué pour un ministre communiste dans un gouvernement socialiste. Il peut dire on va dans la bonne direction, mais ça va pas assez loin. On peut assumer de rester quand ça va pas assez loin. Mais quand ça va trop loin et pas tout à fait dans la bonne direction, c'est plus compliqué. Donc une coalition où le plus radical est majoritaire, c'est plus compliqué pour gouverner et c'est plus confortable dans l'opposition, parce qu'il faut être vocal et tribunicien dans l'opposition.
C'est quoi l'enjeu ? C'est d'arriver premier groupe de l'opposition ? C'est clairement
ça ? Oui, c'est ça. C'est la commission des finances à l'Assemblée nationale. C'est
des postes de questeurs.
Des postes de questeurs. Et puis, c'est une présence médiatique matin, midi et soir. Et une force physique aussi. Parce que c'est ça, c'est très physique, l'hémicycle. C'est tout petit. Donc, quand il y a du monde dans un camp, ça se voit, ça s'entend. Et puis, l'idée, évidemment, et c'est ce que disent les socialistes. Les socialistes qui se sont aujourd'hui éloignés de la NUPES, ils disent Jean-Luc Mélenchon, il veut pas gagner maintenant, mais il veut gagner plus tard, et donc il installe sa base arrière. Donc c'est alors même si lui ne sera pas candidat aux législatives cette fois-ci.
David,
petit flashback à l'appui de ce que vient de dire Soazic Kemener sur le vocalisme des insoumis. Souvenez-vous, 2017, ils sont 17 à l'Assemblée nationale, ils ont totalement phagocyté, trusté l'opposition à Emmanuel Macron de manière très bruyante, très bien mise en scène, très théâtre. Ils ont
moins nombreux, que les socialistes.
Ouais, moins nombreux que
c'est eux qui ont fait le plus de bruit, on est d'accord.
Voilà, ils étaient 17, et là, les sondages, alors il y a eu des projections nationales qui ne veulent pas dire grand-chose, mais on peut escompter à ce qu'ils soient plusieurs dizaines, 50, 60, voire 100, on ne sait pas, mais en tout cas, imaginez, à partir de 17, passer à 50 ou 100, le bazar, ça va être...
Premier groupe.
Voilà, en tout cas, ils seront le premier groupe, ça va être très compliqué pour la majorité, si jamais elle se confirme la majorité macroniste.
Voilà, premier tour dans 3 semaines, ça nous amène au like citoyen. Avec Alex Darmon, qui surveille les réseaux sociaux. Cette semaine, Alex, vous allez nous expliquer comment le parti Reconquête a décidé d'accompagner ses candidats aux législatives pour leur campagne sur le numérique.
Oui, Claire, car lorsque l'on est candidat à une campagne, ce n'est pas que faire les marchés pour convaincre les électeurs, non. Il y a aussi tout un travail souterrain à réaliser et souvent sous-estimé. Alors, pour aider ces candidats, le parti lancé par Éric Zemmour a misé sur une de ses forces lors de la présidentielle, le digital. C'est comme ça qu'est né Vulcain. Vulcain, pour les amateurs de mythologie, c'est le dieu romain du feu et le patron des forgerons. Mais pour ce qui nous concerne ici, Vulcain, c'est une application développée en interne par le parti pour ses 550 candidats aux législatives. Aux manettes de ce travail, Samuel Lafont, le responsable numérique de la campagne d'Éric Zemmour, et l'un de ses proches, Stanislas Gobert, un autre militant de Reconquête et développeur digital à l'origine. Alors c'est la première fois qu'un outil de cette nature est développé en France. Jusqu'ici, on connaissait surtout Nation Builder, la plateforme américaine créée en 2009. Et qui permet de gérer une campagne électorale en ligne. Eh bien, dites-vous que Vulcain est un outil similaire, découlant du même logiciel américain, et qui permet de gérer en même temps la campagne de l'ensemble des candidats investis par le parti Reconquête.
Alors concrètement, que trouve-t-on sur cette application Vulcain ?
Eh bien, absolument tout pour faire une campagne politique. J'ai pu voir la plateforme. C'est un kit de campagne 2.0. Les candidats sont aidés pour fabriquer leur affiche, créer leur site internet en seulement quelques clics et même concevoir leur propre bulletin de vote pour aller les déposer le jour J dans les bureaux de vote de leur circonscription. Ils ont été aussi aidés pour remplir les documents officiels à envoyer à la préfecture, vous savez, pour valider le dossier de candidature. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'au sein de ce kit de campagne, on trouve Épervier. Et ce qui est dans la vraie vie un petit oiseau est ici un algorithme de ciblage qui permet à chaque candidat de repérer géographiquement et donc localement les endroits les plus propices au porte-à-porte. Toujours sur cette appli, une autre fonctionnalité intéressante qui permet de créer des mailing lists pour mobiliser les électeurs potentiels et tenter de les impliquer le maximum dans la campagne. Bref, rien n'est laissé au hasard. Chez Reconquête, on pense que le numérique est important pour réussir une campagne.
Et comment ça se passe financièrement pour les candidats Reconquête quand on leur offre cette application ?
Alors on leur offre pas. Hein. Si Reconquête n'oblige pas ses candidats à l'utiliser, s'ils veulent le faire, ils doivent débourser, tenez-vous bien, entre 1000 et 4000 euros. Le prix varie selon les options qu'ils veulent utiliser. Vulcain d'ailleurs a aussi une autre fonction. Elle permet à chaque candidat de récolter des dons, mais pour le parti. L'appel aux dons numériques étant la principale source de financement de Reconquête, tous les candidats sont au courant que l'argent récolté remontera directement à la trésorerie nationale. En tout cas, à ce stade, le parti d'Éric Zemmour annonce avoir déjà réussi à créer 500 sites de campagne, et cela en à peine 5 jours, un rythme considérable qu'il aurait été impossible de tenir sans cette application, et ainsi mobiliser autant de candidats pour un jeune parti. Rendez-vous maintenant dans 3 semaines pour savoir si cette stratégie a porté ses fruits.
Merci Alex Darmon. Et on a déjà, David Revedalon, un premier sondage. Dans les colonnes du JDD, sur la circonscription où se présente Éric Zemmour, parachutage a priori réussi pour l'instant.
Absolument. Alors d'après ce sondage, c'est vrai qu'on le escomptait pas aussi haut. C'est dans la quatrième du Var, effectivement, autour de Saint-Tropez. Hein, mais il y a aussi quelques communes un peu moins connues autour et quelques communes moins flamboyantes. Alors il arriverait en deuxième position. La candidate macroniste Sereine Mauborgne arriverait à 28%. Éric Zemmour, donc pour Reconquête, 24%, devant le candidat du Rassemblement National qui est particulièrement bien implanté, on le sait, dans ce département, Philippe Lothiot, à 21%. Alors, compte tenu de ce que disait Soizic Temehner tout à l'heure sur le niveau de votants nécessaire pour arriver au deuxième tour, il n'est pas certain que le Front National soit en mesure de disputer une triangulaire avec le candidat de Reconquête et celle de LREM. Mais en tout cas, il n'en est pas très loin. Rappelons que la gauche, en tout cas la candidate de la NUPES, hein, est à 19%, donc pas non plus très loin. En revanche, au deuxième tour, le candidat Zemmour perdrait 47% contre la candidate macroniste 53%. De même que le candidat RN, mais le candidat RN perdrait, lui, très près de la marge d'erreur, 49 contre 51. Donc, affaire à suivre et une campagne qui, vraisemblablement, va être assez décisive dans la circonscription.
En tout cas, je note une chose, c'est que le sondage a été fait dans la circonscription, parce qu'il faut se méfier, encore Absolument. Une fois, on le redit, Soizic Temehner, des sondages qui sont faits à l'échelon national, parce qu'on a 577 élections.
Oui, voilà, et on voit bien, par exemple, la NUPES est en haut dans les sondages, première dans les sondages, et en fait, ça se voit pas dans le nombre de sièges, évidemment. Pourquoi ? Parce que le vote NUPES, il est pas réparti homogénéisément, de manière homogène, pardon, sur l'ensemble du territoire. Et donc, effectivement, c'est surtout dans les villes. C'est aussi très générationnel. Quand vous détaillez le sondage IFOP de la semaine dernière pour LCI, on voit bien que les jeunes votent beaucoup pour la NUPES, mais beaucoup moins les plus de 65 ans, par exemple. Et qui est-ce qui tient l'élection en France? C'est plutôt les personnes plus âgées plutôt que les jeunes qui votent beaucoup moins. Donc c'est vrai qu'il faut se méfier de ces sondages. Et d'ailleurs, les sondeurs nous disent qu'ils ont beaucoup de mal à faire des projections en nombre de sièges. Ils en font parce que tout le monde est demandeur, mais il faut aller
voir dans le détail, il faut faire de la dentelle. Voilà. Surveiller certaines circonscriptions, on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Allez, une circonscription pour vous à surveiller.
C'est un peu de l'ethnocentrisme, mais celle que je regarde, moi, c'est celle de Brest-Ville. Donc c'est la deuxième du Finistère.
La Bretonne de l'étape.
Voilà. Et alors pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est la foire aux dissidences. C'est-à-dire que vous avez un député sortant, Agir, Jean-Charles Larsonneur, qui n'a pas été réinvesti par La République En Marche. Pourquoi? Parce que Richard Ferrand l'a pas voulu. Donc il y a un ancien socialiste qui se présente au nom des marcheurs qui s'appelle Marc Quatanea. Mais vous avez un dissident LREM, un ex-leader étudiant qui s'appelle Michael Cabon. Vous avez un militant LFI qui s'appelle Monsieur Cadalen, qui a été investi pour la NUPES. Mais il y a un dissident, c'est l'adjoint à la culture PS, parce que c'est un maire PS à Brest, qui s'appelle Reza Salah. Et vous avez aussi une candidate RN,
Yvette
Roulet. Mais vous avez aussi une ancienne RN qui, elle, est candidate pour Reconquête. Donc ça fait un bazar, c'est illisible, en sachant...
Tout le monde a un dissident, en fait.
Voilà, chacun a son dissident et ça cherche son dissident. Voilà. Et en sachant que Emmanuel Macron est arrivé en tête au premier tour, mais Jean-Luc Mélenchon était juste derrière, de la présidentielle.
Donc effectivement, on va surveiller tout ça. C'est presque plein d'élections locales, on va dire ça comme ça. On pourrait s'arrêter sur d'autres, Alex, je ne sais même pas si on va avoir le temps, parce qu'il y a on va passer au bobino de Thomas Legrand ce soir, c'est cadeau. Thomas, vous avez décidé de vous transformer en animateur
Nicolas Toufflet,
de jeux radiophoniques.
Bah oui, je vais vous faire deviner, il y a eu 24 premiers ministres, 25 même premiers ministres depuis 1958. 59, puisque en fait le premier ministre a été installé en 1959, et je vais vous en faire écouter quelques-uns. On va voir si vous vous souvenez. Autour de la table, vous nous dites.
Le président de la République m'avait fixé plusieurs objectifs. Consolider le redressement de notre économie dans un esprit de justice sociale. Assurer la sécurité des Français, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Alors
David Revonalon, en plus le casque marchait pas.
L'angocha.
Ça date d'hier.
Alors là,
franchement, alors Thomas, bon, ça date un peu cette affaire.
Non, ça date, c'est 92-93. Pierre Bérégovoy, donc ancien syndicaliste qui a été secrétaire général de l'Élysée en 80.
Vous
ne connaissez pas sa voix ? Si, quand même. Les plus vieux d'entre nous, dont moi. voilà, il a été nommé en 92, juste après Édith Cresson. Il quitte Matignon en 93, après l'accusante défaite du PS. Et alors, il se suicide un mois après. C'est une très triste affaire. Il a été mis en cause dans une affaire sans d'ailleurs conséquences juridiques. Et il est mort en 1993. Deuxième Premier ministre.
Dans nos préoccupations nationales, l'Algérie a la priorité absolue. Des hommes et des femmes y vivent, dont les pères ont fait l'Algérie et qui continuent à la faire chaque jour.
Alors un nom.
Bon, l'Algérie, ça date un peu quand
Michel
même.
Michel Debré.
Oui, alors c'est la voix ou l'Algérie qui vous a fait
Les deux, mais plus l'Algérie.
Qui voit Nazir, mais c'est l'Algérie, évidemment, Michel Debré, le premier des premiers ministres de Gaulle, et qui démissionne en 62. Il n'était pas d'accord avec la conclusion de l'affaire algérienne. Suivant.
Vous savez que je n'avais jamais été parlementaire, et par conséquent, cette première session, c'était aussi pour moi l'occasion d'aborder pour la première fois la tribune du Parlement, et d'y monter pour la première fois comme Premier ministre ne va pas sans quelque appréhension.
Alors là, vous avez trouvé.
Si j'étais acteur, je dirais qu'au départ, j'avais quelque peu le trac.
Voilà. David fort. Aussi avait trouvé, voilà, Pompidou, donc futur président, Premier ministre en 1962, de 1962 à 68, c'est le recordman. Il devient président après. Suivant.
Nous avons choisi, dans le respect des libertés de chacun et dans le respect des institutions que nous croyons faites, bien faites pour le monde où nous sommes. Nous avons choisi de rendre chaque année meilleur le sort des Françaises et des Français.
Là, vous n'avez pas trouvé
Langochin?
Non, oui.
Mesmer, évidemment, personne se souvient de Mesmer.
De sa voix, non.
Voilà, c'est le dernier Premier ministre de Pompidou.
Ou bien on ferme les yeux, considère qu'il n'y a pas de problème, et on va jusqu'au bout de la nuit, comme ça. Et jusqu'au bout de la nuit, on dépensera beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
Vous reconnaissez pas, là, quand même.
Un déficit qui ne fera que s'accentuer.
Vous pouvez comprendre avec le fond de l'affaire. En 1982, Pierre 1983, Pierre Mauroy. Encore un? Non, plus.
Un
dernier pour la route.
C'est terminé?
Non, bon.
Elisabeth Borne est la 24e locataire en Swazik Kemener, sachant qu'il y a eu 25...
Oui, deux fois Chirac.
Deux fois
c'est
Chirac.
Pour ça. C'est pour ça qu'on arrive à 25.
Voilà. Donc aujourd'hui, c'est Elisabeth Borne. Premier conseil des ministres demain matin. Au programme, enfin, je ne sais pas s'il y a un menu particulier.
Alors, on lui a demandé, on lui a posé la question pour le journal du dimanche. Elle nous a plutôt donné les priorités globales du gouvernement. Vous les connaissez, pouvoir d'achat, écologie, santé et école. Mais on imagine mal que vont atterrir dès demain 4 textes de loi sur ce sujet. Donc voilà, je pense que ce sera une prise de contact. Et je ne suis même pas certain qu'il y ait, vous savez, un petit buffet, un petit verre organisé avec le président, parce que le président ne connaît pas tous les ministres. Donc ça va être peut-être réduit à la portion congrue.
Moi, j'avais dit une bêtise la semaine dernière en disant qu'on attendait le discours de politique générale.
Non,
mais il aura lieu après les législatives. C'est bien dommage, parce que pour savoir de quoi le bornisme est fait...
Oui, mais c'est peut-être un peu fait exprès aussi d'avoir attendu pour annoncer ce gouvernement et réduire le temps de la campagne des législatives.
Voilà, d'autant qu'on entre dans la période de réserve dès demain. Donc on ne va pas les entendre beaucoup, c'est tout nouveau ministre. Et le but, justement, ce n'est pas de les entendre trop, de rester sur la campagne présidentielle, de rester sur les quelques mots d'Elisabeth Borne, enfin l'interview qu'elle a donnée au JDD. Mais on voit bien qu'elle est encore dans des choses qui sont très larges, hein. Il n'y a pas de précision. Parce qu'on sait bien que le diable se cache dans les détails et personne n'a oublié en politique, c'est un exemple cuisant, Jean-Louis Borloo qui avait parlé de la TVA sociale, vous vous en souvenez, en 2007, juste avant les législatives, on considère que ça avait fait perdre plusieurs dizaines,
une cinquantaine de députés
à la majorité à l'époque. Et donc effectivement, très grande prudence. Et
donc le mot d'ordre, c'est dites-en le moins possible pour pas dire de bêtises. En gros, c'est ça. Et on a plus que 10 secondes.
Alors le président nous a refait le coup de la fin de campagne présidentielle. Il a fait 3 semaines de campagne la présidentielle. Et ben là, c'est pareil. La Macronie fera 3 semaines de campagne législative et les autres aussi, du coup, les Insoumis et les amis de Marine Le Pen.
Merci beaucoup à tous les cas. David Revaud-Allonne, Swazik Kemener, Alex Darmon, Thomas Legrand. C'est terminé.
Ne vous résignez pas.
Nous lançons ce soir la grande bataille des législatives.
Le troisième tour commence ce soir.
Je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
Vive la République! Vive la liberté!
Vive l'écologie!
Vive la France!